Lettre 82e. Continuation de la lettre d'Evelina, Clifton Hill, le 13 novembre. Le temps approche où je puis espérer de vous revoir, mon cher monsieur. En attendant, je mène toujours une vie des plus agitées. Je ne dors point. Le sommeil semble fuir la grande joie comme les grands chagrins. Je vais passer une partie de la nuit à continuer mon journal. Nous fîmes partie hier au soir d'aller à Bath, que je n'avais pas vu encore, et nous nous sommes mis en route ce matin d'abord après le déjeuner. Lady Louise et Madame Beaumont étaient dans le phaéton de Mylord Merton, M. Coverley dans celui de M. Lovell. Madame Selwyn et moi, nous étions restés avec Mylord Orville. À une petite demi-lieue de Clifton, nous remarquâmes une chaise de poste qui nous suivait au galop. Et lorsqu'elle fut à notre portée, nous entendîmes une voix crier à nos domestiques. « Oh là, garçon, pourriez-vous me dire si Miss Anville est dans une de ces chaises ?» Je reconnus d'abord le capitaine Mirvan et Mylord Orville arrêta notre voiture. Le capitaine mit pied à terre pour venir nous complimenter. « Ah, vous voilà, Miss Anville. Comment va-t-il ? On m'a dit que vous étiez devenue Miss Belmont. Je vous en félicite. Mais que fait notre vieille Française ? Madame Duval, je suppose qu'elle se porte bien ?» Je l'espère du moins, et je me flatte bien de lui faire reprendre service. Elle s'est assez reposée. Il est temps qu'elle rentre en campagne. Et à propos, son chevalier, vous ne m'en dites rien. Est-il toujours si maigre? Je n'en sais rien. Ils ne sont à Bristol ni l'un ni l'autre. Non. Mais du moins, la vieille grand-maman sera de la noce. L'occasion sera belle pour y étaler ses étoffes de lion. D'ailleurs, je me propose de danser avec elle une courante sur un air nouveau. Quand est-ce qu'elle arrive? Nous ne l'attendons pas du tout. « Comment, diable ? Voilà une mauvaise nouvelle. J'ai rêvé tout le long du chemin lui jouer quelques tours de ma façon. Cela est extrêmement obligeant. Oh, je vous promets que Marion n'aurait pas réussi à m'engager dans cette course. Si j'avais pu prévoir que je ne trouverais pas ma vieille Française, je m'étais fait une fête de la régaler de la belle manière. C'est donc Miss Mirvan qui vous a engagé à ce voyage ? Oui, nous avons couru toute la nuit. Est-elle avec vous ? Mais sans doute, elle est là-bas, dans la voiture. » « Et que ne me le disiez-vous plus tôt ?» Aussitôt, je descendis pour aller l'embrasser. Mylord Orville me devança pour ouvrir la portière, et je n'ai pas besoin de vous dire avec combien de joie je revis, mon ami. Nous demandâmes toutes deux qu'on nous permît de rester ensemble, et Mylord Orville eut la complaisance d'offrir au capitaine Mirvan une place dans son phaéton. La visite de ma chère Marie me vient on ne peut plus à propos, et me fait un plaisir infini. Cette excellente fille, aussitôt qu'elle était informée du changement de ma situation, a pressé son père de la conduire à Clifton. Ses prières, jointes aux instances de Lady Howard et de Madame Mirvan, ont déterminé le capitaine. Mais Marie convient que s'il avait su qu'il ne trouverait point Madame Duval, elle n'aurait jamais obtenu cette faveur. Ils étaient arrivés chez Madame Beaumont peu de minutes après notre départ et n'eurent pas beaucoup de peine à nous rattraper. Je ne vous dis rien de la conversation que j'eus avec mon ami. Vous devinez aisément quel en fut le sujet. Nous nous arrêtâmes devant un grand hôtel où nous fûmes obligés de demander une chambre. Lady Louise était déjà fatiguée à mourir. Elle avait besoin de prendre quelques rafraîchissements avant que de commencer nos promenades. Dès que nous fûmes rassemblés, le capitaine m'entreprit avec sa politesse ordinaire. « Eh bien, Miss Belmont, je vous fais mon compliment. On me dit que vous êtes déjà brouillée avec votre nouveau nom. Pas que je sache, monsieur. » Et pourquoi êtes-vous donc si pressé de l'échanger ? Miss Belmont, répéta M. Lovell d'un air fort étonné. Peut-on savoir sans indiscrétion de qui on parle ? N'ai-je pas toujours compris que mademoiselle s'appelait Anville ? Le capitaine. Par la sambleu ! J'ai quelque idée, monsieur, de vous avoir vu autrefois. N'êtes-vous pas, par hasard, cet honnête homme qui avait passé toute une soirée au spectacle sans savoir quelle pièce on donnait ? M. Lovell. « Je crois en effet, monsieur, que j'ai eu l'avantage de vous voir quelque part ce printemps. » Le capitaine. « Par ma foi, si je vivais encore sans printemps, je ne vous oublierais pas. » Le tour était bon, et j'en ai ri plus d'une fois. Imaginez-vous, mesdames, que ce galant homme, tel que vous le voyez là, dépense 5 shillings par jour pour informer ses amis qu'il est encore en vie. « Madame Selwyn, ce n'est pas payer trop cher une nouvelle de cette importance. » Lady Louise s'étant un peu refaite, nous commençâmes nos courses. Bath est une ville charmante. La vue de l'amphithéâtre est admirable. L'élégante symétrie du cirque m'a également plu. mais je n'ai pas été aussi contente de ce qu'on y appelle les parades. Ces grandes places ne valent pas les belles rues pavées de Londres. L'une se distingue, si vous voulez, par sa belle vue sur le Prior Park et la rivière Avon. Mais malgré cela, elle ne répond pas à l'idée que je m'en étais faite. J'ai été scandalisé du négligé des dames dans l'appartement des bains. Il est vrai qu'elles sont voilées. Mais toujours il y a peu de délicatesse à s'exposer dans un équipage aussi leste au regard de tous les curieux. L'idée du bain rappela au capitaine l'ancienne histoire de Madame Duval. « Parbleu ! » s'écria-t-il. « Quel dommage que notre Française ne soit pas ici. Il y aurait de quoi la satisfaire, et je m'offrirais volontiers à la rouler un tant soit peu dans cet étang. » Mylord Orville. « Cette dame vous aurait beaucoup d'obligations, monsieur, d'une preuve aussi distinguée de votre attention. » Le capitaine. « Que voulez-vous, Mylord ? Cette vieille sorcière m'a mis Martel en tête et j'avoue qu'elle m'intrigue. » « Monsieur Lovell, je ne conçois pas pourquoi nos dames ont fait choix au bain d'un accoutrement aussi singulier. J'y ai réfléchi plus d'une fois très sérieusement, mais je n'en ai jamais pu trouver la raison. » Lady Louise. « Je suis très fort de votre avis, et j'aimerais beaucoup qu'on abolisse cet usage. J'ai toujours été l'ennemi des bains, uniquement parce qu'on s'y abîme mal. Vous devriez, monsieur Lovell, avoir la charité de m'aider à inventer quelque ajustement élégant qui convienne mieux. » Monsieur Lovell. « Moi, madame, je m'en garderai bien. Il y aurait de la témérité à vouloir diriger un goût aussi exquis que le vôtre. D'ailleurs, je ne suis pas fort pour l'invention des modes, et je ne crois pas en avoir trouvé trois de toute ma vie. En général, la parure n'est pas mon fait, et j'y ai peu de prétention. » Lady Louise. « Fi donc, monsieur Lovell, que dites-vous là ? Ne savons-nous pas tous que c'est vous qui donnez le ton dans le beau monde ? Je ne connais personne qui se mette mieux que vous. » Monsieur Lovell. « Vous me confusionnez, madame. Moi, bien mis. Je suis fait quelquefois à ne pas oser me montrer. Ma figure révolte. Ce matin encore, j'ai employé une grosse demi-heure à réfléchir sur l'habit que je mettrais. » Le capitaine. « Vertu de ma vie, que n'étais-je avec vous ? Je parais que je vous aurais fait aller un peu plus vite en besogne. Qui diable se met en peine de vos habits ? Madame Selwyn. N'allez pas quereller monsieur sur ce qu'il a réfléchi. Ce n'est pas là ordinairement son faible. » Monsieur Lovell. En vérité, madame, vous êtes fort honnête. Le capitaine. Mais dites-moi un peu, monsieur. Vous êtes-vous jamais plongé par ici ? Monsieur Lovell. L'expression n'est pas des mieux choisies. Mais si vous demandez si j'ai pris le bain, je vous dirai que ça m'est arrivé assez fréquemment. Le capitaine. Et à quoi bon, si l'on ose le savoir, cette immense friseur ? Votre tête par elle-même me paraît assez bien graissée pour revenir sur l'eau. Madame Selwyn. « Oui, d'autant plus que la partie la plus légère est toujours celle qui surnage. » Le capitaine. « Vous décidez trop tôt, madame, et pour savoir si monsieur est plus leste de la tête ou des talons, il faudrait que nous le vissions militaire. En attendant, je parie 10 guinées contre un shilling que je le culbute d'un seul coup de main, et le fais sauter dans l'étang la tête la première. » Mylord Merton. « Bah, je tiens la gageure. » Le capitaine. « Oui, da. » « Eh bien, l'affaire sera faite avant que vous ayez le temps de compter 4. » « Monsieur Lovell. »« Mais voilà qui est plaisant. »« Je ne vois pas, messieurs, quel droit vous avez de faire des paris sur ma tête sans avoir demandé mon consentement. » Et pour plus de précautions, il se retira en même temps de la fenêtre. « Monsieur Coverley. »« Vous n'y êtes pas, Lovell. On peut faire des gageurs sur vous tant qu'on veut. Votre consentement n'y est nullement nécessaire. » Le capitaine parierait, s'il en avait l'envie, que votre nez est de couleur bleu céleste. Madame Selwyn. Ou bien que les grâces de votre esprit l'emportent sur celles de votre corps. Ou enfin, telle autre absurdité. Monsieur Lovell. Je vous assure qu'on s'arroge là un privilège qui me déplaît fort. Et je pourrais vous prier de ne pas pousser plus loin ces petites libertés. Le capitaine. Je me moque bien de vos prières. Et s'il me prenait envie de parier que vous n'avez pas une dent dans la bouche, m'en empêcheriez-vous, monsieur Lovell ? Non, mais il s'agirait de prouver ensuite votre thèse. Le capitaine. Cela serait possible encore. En vous cassant la mâchoire, par exemple, je pourrais gagner. Monsieur Lovell. Me casser la mâchoire. Et cela pour l'amour d'une gageure. Mais vous n'y pensez pas, monsieur. Et tous les paris du monde ne pourraient pas justifier une action aussi barbare. Il fallut que Mylord Orville se mît de la partie pour terminer cette ridicule discussion. Ils nous firent monter en voiture et nous retournâmes à Clifton. Madame Beaumont nous retint tous à dîner. Elle a eu la complaisance d'offrir à Miss Mirvan une chambre dans sa maison. Le capitaine logera aux eaux. Après notre retour, M. Lovell débuta par nous faire force excuse de ce qu'il paraissait à table en habit de cheval. Mme Beaumont nous demanda ensuite, à Miss Mirbon et à moi, comment nous avions trouvé Bath. M. Lovell, dans une course comme celle-là, peut-on dire que ces dames ont vu la ville ?
Le capitaine,
et pourquoi pas ? Croyez-vous qu'elles ont mis leurs yeux en poche ?
M. Lovell,
pas tout à fait, monsieur. Mais je doute que vous trouviez quelqu'un, un quelqu'un comme il faut, s'entend, qui se vante d'avoir vu Bath pour s'y être promené pendant une matinée.
Le capitaine,
ah, vous croyez peut-être que nous eussions vu la ville plus à notre aise en y allant de nuit ?
M. Lovell,
non, monsieur, non, et ce n'est pas ma faute si vous ne me comprenez point. Je veux dire que je n'appelle pas avoir vu Bath lorsqu'on n'y a pas été dans la bonne saison.
Le capitaine,
et qui voit-on de plus dans une saison que dans l'autre ?
M. Lovell jugea cette question trop absurde pour y répondre.
Mylord Orville, les amusements de Bath sont d'une monotonie dont on se lasse bien vite, mais ce qui m'y déplaît le plus, c'est qu'elle est un repère de joueurs.
Mylord Norton,
j'espère, Mylord, que vous ne voudrez pas abolir le jeu.
C'est la rocambole de la vie, et le diable m'emporte si je pourrais vivre sans cartes.
J'en suis très fâché,
dit gravement Lord Orville en regardant sa sœur.
Mylord Norton,
vous n'êtes pas juge compétent, Mylord, mais je voudrais vous tenir une fois dans un de nos brelans, et je suis sûr que vous ne le quitteriez pas plus volontiers qu'un autre.
Lady Louise, j'espère, Mylord, qu'il n'y a personne ici qui vous ait empêché d'y rester.
Mylord Norton,
vous savez, madame, le pouvoir que vous avez sur moi.
Il n'y a rien que vous ne me fassiez oublier.
Monsieur Coverley,
excepté elle-même. Avouez, Mylord, que je vous tire là bien d'affaire.
Mylord Norton,
vous autres gens d'esprit avez toujours des réponses prêtes. Ce n'est pas mon fait, j'en conviens.
Madame Selwyn,
c'est dommage que vous ne donniez pas dans le bel esprit. Il ne tiendrait qu'à vous d'y réussir.
À propos, interrompit M. Lovell en s'adressant à Lady Louise, savez-vous la nouvelle du jour ?
Lady Louise,
qu'est-ce, je vous en prie ?
M. Lovell,
le bruit qu'on fait courir d'une certaine personne qui se trouve aux eaux.
Lady Louise,
on ne m'en a rien dit, contez-moi cela au plus vite.
M. Lovell,
pardon, madame, c'est un secret, et je n'en aurais point parlé si je n'avais cru que vous en étiez déjà instruite.
Lady Louise,
vous êtes insupportable avec votre circonspection, et peu s'en faut que je ne me fâche. Allons, vite, je veux le savoir, le direz-vous ou non ?
M. Lovell,
vous savez, madame, que je n'ai rien à vous refuser. Mais auparavant, il faut que toute la compagnie me promette d'en garder le secret.
Le capitaine,
puissiez-vous être muet vous-même ? Garder le secret, la plaisante idée ! Et n'avez-vous pas honte de prononcer ce mot en parlant à une femme ? Mais à y regarder de près, je crois que j'aimerais mieux encore mettre tout le sexe ensemble dans ma confidence plutôt qu'un bavard comme vous.
Monsieur Lovell,
un bavard comme moi, monsieur, je n'ai pas l'honneur d'entendre votre expression.
Le capitaine,
peu importe, on vous l'expliquera quand il vous plaira.
Monsieur Lovell,
vous m'offensez, monsieur. Mais comme vous vous servez souvent de termes de marine, il faut bien vous passer celui-ci, avec tant d'autres, qui ne méritent point d'attention.
Mylord Orville, pour changer la conversation, demanda à Miss Mirbon si elle se proposait de passer l'hiver à Londres.
Le capitaine,
non, assurément. Qu'y fera-t-elle ?
Elle y a vu tout ce qu'il y avait à voir.
Monsieur Lovell,
ne dirait-on pas qu'on va voir Londres comme on voit le spectacle ?
Le capitaine,
et vous-même, monsieur le savant, sous quel point de vue l'envisagez-vous ? Me le direz-vous ?
Monsieur Lovell,
non pas, monsieur. Vous auriez également de la peine à me comprendre. Je ne suis pas assez au fait de votre jargon marin pour me mettre à votre portée. Ne trouvez-vous pas, madame, que l'entreprise serait un peu difficile ?
Lady Louise,
tout aussi difficile que de faire parler l'italien à mon perroquet.
Monsieur Lovell,
admirable, madame. Vous êtes d'une humeur charmante. Et en effet, il faut convenir que messieurs les marins diffèrent trop de nous autres en manière et en langage pour qu'il y ait de quoi se récrier si on leur entend parler de Londres comme d'un cabinet de curiosité.
Lady Louise,
vous êtes un drôle de corps aujourd'hui, monsieur Lovell.
Monsieur Lovell,
n'ai-je pas raison ?
Prétendre d'avoir vu Londres dans 3 ou 4 semaines ?
Cela me donne, malgré moi, des envies de rire.
Le capitaine,
et combien de temps vous faut-il donc de par tous les diables ? Vous faut-il une journée entière pour chaque rue ?
Monsieur Lovell, au lieu de répondre, se mit à ricaner avec Lady Louise.
Je vous proteste, reprit le capitaine, que si l'on me choisissait pour votre conducteur, je vous ferais trotter d'un bout de la ville à l'autre dans moins d'une matinée.
On continua à rire sous cap, et le capitaine s'en était aperçu, se mit dans une colère affreuse.
« Écoutez, mon damoiseau, » s'écria-t-il, toujours en apostrophant M. Lovell,
« laissez là vos grimaces. C'est un langage que je n'entends pas. Je pourrais fort bien y répondre par un bon coup de poing. »
M. Lovell,
« Monsieur,
savez-vous bien ce que vous dites? Est-ce ainsi que l'on parle, un homme de ma sorte ?»
Le capitaine,
« À d'autres, vers ces rasades, monsieur, je parie que vous l'avalerez. »
Et en même temps, il demanda à Verdale, qu'il but à la bonne digestion de M. Lovell. Cette turlupinade fut accompagnée d'un geste menaçant.
M. Lovell ne jugea pas à propos de répondre, mais il avait l'air capot. Nous sortîmes pour lui laisser le temps de terminer sa dispute avec le capitaine.
On venait de me rendre deux lettres, l'une de Lady Howard et de Mme Mirvan, qui renferment les félicitations les plus obligeantes. L'autre est de Mme Duval, mais à ma grande surprise, je n'ai pas reçu une ligne de vous, monsieur.
Madame Duval semble se réjouir beaucoup des nouvelles que je lui donnais. Un grand rhume l'empêche de venir à Bristol. Elle me dit que les Brantons sont tous bien portants et que Miss Polly est à la veille de se marier avec le Sir Brown. Quant à M. Smith, ajoute-t-elle, il a changé de logement, et depuis ce temps il règne dans la maison une morne tranquillité. Mais ce n'est pas tout encore, et j'ai bien d'autres sujets de plainte. J'étais indignement trompé. M. Dubois eut la bassesse de me quitter et s'en est retourné en France sans me dire le mot.
Elle finit par m'assurer, comme vous l'avez prédit, monsieur, que si j'épouse Mylord Orville, je serai un jour son unique héritière.
Nos cavaliers sont revenus pour prendre le thé avec nous. Il n'y eut que le capitaine Mirvan qui nous manqua. Il était allé faire un tour dans son auberge et il avait amené sa fille pour séparer, à ce qu'il disait, la friperie de celle-ci d'avec ses habits. M. Lovell avait toujours un air fort contrit. « De ma vie, dit-il, je n'ai rien vu d'aussi bas et d'aussi mal avisé que ce rustre de capitaine. Il n'est venu ici, je pense, que pour me chercher querelle, mais je lui proteste qu'il ne trouvera pas son compte avec moi. »
Lady Louise,
« Cet homme m'a donné une frayeur mortelle. Il est d'une brutalité révoltante. »
Madame Selwyn,
« N'ai-je pas compris, M. Lovell, qu'il vous a menacé d'un coup de poing ?»
M. Lovell,
« Sans doute, madame. Mais si l'on voulait prendre garde à tout ce que disent ces gens du peuple,
on ne serait jamais à l'abri de leurs insolences. Le plus court est, je pense, n'y faire aucune attention. »
Madame Selwyn,
comment, monsieur, vous empocheriez donc tranquillement un soufflet?
Pendant ce temps, je vis arriver le phaéton du capitaine, et je descendis pour aller à la rencontre de ma chère Marie. Je la trouvai seule dans la voiture. Elle me dit que son père lui avait ordonné de prendre les devants, qu'elle le soupçonnait de machiner quelque mauvais projet pour jouer pièce à M. Lovell. Nous fîmes un tour de promenade dans le jardin, où Mylord Orville nous joignit. Il se plaignit un peu de ce qu'il était exclu de notre société. Nous l'y reçûmes volontiers, et j'en fus richement récompensé, car je ne crains pas d'avouer que je passe avec lui un quart d'heure des plus agréables de ma vie. Le retour du capitaine Mirvan nous mit tous assez mal à notre aise. Il s'annonça cependant d'un air fort content. Il caressa sa fille, se frotta les mains, et eut à peine à cacher sa joie. Mais cette belle humeur même ne nous présageait rien de bon. Nous le suivîmes tous dans la salle des visites, où il affecta de reprendre son sérieux. Il était tellement rempli de son sujet qu'il oublia de saluer Madame Beaumont, pour commencer d'abord son jeu avec M. Lovell. « Dites-moi, je vous prie, s'écria-t-il, avez-vous un frère dans ces quartiers ?»
M. Lovell,
non pas, Dieu soit loué, je suis exempt de cette sorte d'engeance.
Le capitaine,
cela m'étonne, car je viens de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble au point que je l'aurais pris pour votre frère jumeau.
M. Lovell,
que ne nous l'avez-vous amené? J'aurais été charmé de faire sa connaissance. Je n'ai aucune idée de sa personne et je serais extrêmement curieux de le voir.
En même temps, le domestique de M. Mirvan entra dans la chambre pour annoncer la visite d'un homme de petite taille qui demandait à parler à M. Lovell. Madame Beaumont ordonna qu'on fît monter l'étranger. Il témoigna quelque surprise de ce que son propre domestique n'était point venu faire ce message.
« Je ne sais qui ce peut être, » reprit M. Lovell. « Je ne connais personne à Bristol qui soit de petite taille, à l'exception du marquis de Carlton, avec lequel je n'ai guère de relation.
Après lui, je ne devine plus personne. Voyons, cependant. »
Un bruit confus que nous entendîmes dans l'escalier attira notre attention. Le capitaine, impatienté, se hâta d'ouvrir la porte, et en battant des mains, il s'écria «
Par l'assemble, monsieur, c'est la même créature que j'ai prise tantôt pour votre frère. »
Et à notre grand étonnement, il rentra, tirant après lui un gros singe habillé en élégant, mais dans le goût le plus bizarre et le plus extravagant. Cette apparition effraya tout le monde. Le pauvre M. Lovell demeura confondu. Lady Louise poussa des hauts cris. Miss Mirvan et moi nous montâmes sur nos chaises. Madame Beaumont suivit notre exemple. Mylord Orville se plaça devant moi comme pour me servir de sauvegarde. Madame Selwyn, Mylord Merton et M. Coverley partirent d'un éclat de rire immodéré, en quoi ils furent vaillamment secondés par le capitaine qui, succombant sous le poids de la joie, pousse à l'excès jusqu'à se rouler par terre. La première voix qui se fit jour à travers ce vacarme général fut celle de Lady Louise. Elle cria de toutes ses forces qu'on ôtât ce monstre de sa vue, sans quoi elle menaçait de se trouver mal. M. Lovell, de son côté, commença à se fâcher tout de bon. Et il demanda à M. Mirvan, du ton le plus sérieux, ce qu'il prétendait par cette plaisanterie. Le capitaine.
Ce que je prétends. Et parbleu, ne le voyez-vous pas? Je veux vous peindre d'après nature.
Puis il saisit le singe et en nous le montrant à tous, il ajouta.
À ça, messieurs et dames, j'en appelle à votre jugement. Y eut-il jamais une ressemblance plus frappante? Sur ma foi, à la queue près, il y aurait de quoi les prendre l'un pour l'autre.
Monsieur Lovell.
Capitaine, je saurais vous faire rendre raison de ces insultes. Vous me les paierez, j'en réponds.
Le capitaine. Ah, pour la singularité du fait, vous devriez essayer de changer d'habit avec ce petit gentilhomme, et je parie que vous y méprendrez vous-même.
Monsieur Lovell.
Comment, monsieur, me comparer avec un singe?
Sachez que je ne suis pas accoutumé à être traité de la sorte, et vous verrez si j'endurerai cet affront.
Le capitaine.
Ouais, monsieur se met en colère.
Eh bien, vous avez tort.
Ce pauvre petit animal ne vous fera pas le moindre mal. Approchez, donnez-lui la patte, il est doux comme un agneau. Embrassez-le, et soyez bons amis.
Qui, moi? S'écria M. Lovell en fureur.
Je ne voudrais pas toucher cette vilaine bête pour tout l'or du monde.
M. Coverley.
Appelez-le en duel, je serai votre second.
Le capitaine.
Allons, va. Je servirai moi de second, mon petit ami. Allons, courage, aux armes, messieurs.
M. Lovell.
Le ciel m'en préserve. J'aimerais autant me battre contre un chien enragé.
Mylord Merton.
Pour moi, je ne serais pas curieux non plus d'approcher de cet étranger. Il fait des grimaces horribles.
Lady Louise.
Ah, je n'y tiens plus. Ôtez-moi ce vilain animal, ou je meurs.
Mylord Orville.
Capitaine. Vous voyez que vous inquiétez ces dames. Ayez la complaisance de faire sortir cette bête.
Le capitaine.
Eh, parbleu, pourquoi ont-elles plus peur d'un singe que de l'autre?
Cependant, si cela leur convient,
nous les mettrons dehors tous deux.
Ceci en est trop, s'écria M. Lovell en levant sa canne.
Halte-là, jeune homme,
reprit le capitaine.
Abat votre canne sur le champ.
Le pauvre M. Lovell, trop poltron pour tenir ferme et trop furieux pour plier, se tourna en arrière, et sans réfléchir à quoi il s'exposait, il déchargea sa colère sur le singe à qui il sangla un rude coup. L'animal lui sauta aussitôt au cou et lui mordit l'oreille. Je ne pus refuser davantage ma pitié à M. Lovell. C'est un maître fat, à la vérité, mais encore n'avait-il rien fait qui méritât une pareille correction. Les cris devinrent plus forts que jamais, et surtout on ne distinguait pas ceux de M. Lovell avec la voix de Lady Louise, qui s'imaginait apparemment qu'elle serait mordue à son tour. L'impitoyable capitaine crie aussi, mais c'était de joie. Mylord Orville vint enfin au secours du pauvre Lovell, toujours humain et compatissant. Il quitta son poste d'auprès de moi, qui n'avait plus rien à craindre, et saisissant le singe par le collier, il lui fit lâcher prise et le jeta hors de la chambre. M. Lovell nous offrait un spectacle vraiment hideux. Son sang coulait le long de ses habits et il pleurait à chaudes larmes. Il ne cessa de se lamenter et de répéter que sa blessure était mortelle.
« Monsieur Mirvan, interrompit Madame Beaumont, indignée de la conduite du capitaine, je ne trouve rien de plaisant à tout ceci, et je suis très fâché que vous ayez choisi ma maison pour un jeu aussi barbare. »
Le capitaine. « Pouvais-je prévoir, madame, que l'affaire réussirait si mal?
Je n'avais d'autre dessein que de donner un compagnon à M. Lovell. »
M. Coverley.
« Je ne voudrais pas pour 1000 guinées que la même chose me fût arrivée. » le capitaine. Eh bien, notre homme en est quitte à meilleur marché. Il a reçu le tout gratis. Venez, monsieur Lovel, soyez de bonne humeur. La fin couronnera l'œuvre. Mon singe sera plus honnête une autre fois. Je me charge de vous réconcilier.
Monsieur Lovel.
Je m'étonne que madame Bourbon souffre qu'un homme comme moi soit traité chez elle de la sorte.
Le capitaine.
Voilà bien du tapage pour une misère, pour un bout d'oreille. On croira tout au plus que vous avez été au pilori.
Madame Selwyn.
Mais sans doute, et cette cicatrice veut encore vous faire honneur, on vous prendra pour un écrivain du parti de l'opposition.
Monsieur Lovel.
Comme me voilà accommodé. Mon habit de cheval que j'avais mis pour la première fois est tout ensanglanté.
Le capitaine.
Voilà ce que c'est que de réfléchir une heure sur sa toilette.
Monsieur Lovel, s'étant approché ensuite du miroir, recommença ses lamentations.
Quelle horrible blessure! Je n'en guérirai jamais. Je n'oserai plus me montrer avec une oreille dans cet état.
Le capitaine. Il ne tient qu'à vous de la cacher en portant perruque.
Monsieur Lovel. Moi, prendre perruque? Jour de ma vie! Je ne le ferai pas pour 1000 livres sterling par heure.
Lady Louise.
En effet, un jeune homme en perruque, cela serait abominable.
Mylord Orville, voyant que cette contestation ne finissait pas, crut devoir proposer au capitaine un tour de promenade. Il réussit à l'y engager et nous en fûmes débarrassés. M. Mirvan ne sortit point sans marquer toute sa satisfaction. Il n'eut pas plus tôt fermé la porte que M. Lovel s'exhala en nouvelle plainte.
Ce capitaine est le plus grand brutal que j'ai jamais vu. On a tort de l'admettre dans une société d'honnêtes gens.
Monsieur Coverley. J'espère, Lovel, que vous ne boirez pas cet affront. Il faut en tirer vengeance.
Monsieur Lovel. Avec un homme de mon état, je ne balancerai pas un instant. Mais un corps comme celui-là, qui a passé toute sa vie à batailler, en vérité, cela mérite un peu de réflexion.
Mylord Norton.
N'importe, il faut vous faire rendre raison.
Monsieur Lovel.
Messieurs, chacun le meilleur juge en sa propre cause. Je ne demande conseil à personne.
Monsieur Coverley.
Mais vous ne sauriez. Pensez donc qu'il y va de votre honneur.
Monsieur Lovel.
Vous m'impatientez à la fin. Dans toute autre occasion, je suis homme à faire montre de mon courage, aussi bien que vous.
Mais se battre pour une bagatelle comme celle-là, certes, il en vaut bien la peine.
Madame Selwyn.
Si vous appelez cela une bagatelle, fallait-il donc en faire tant de bruit?
Monsieur Lovel. À vous dire vrai, madame, je croyais d'abord que j'avais la joue emportée, mais le mal n'étant pas si grand, le plus court est de s'en consoler. J'ai l'honneur de souhaiter le bonsoir à madame Beaumont. Ma voiture m'attend, et je n'ai pas le temps de rester davantage. Il nous quitta fort confus et fort honteux. Ce capitaine est un vrai trouble-fête partout où il vient. Heureusement que nous ferons peu de séjour ensemble, car je doute même que la société de ma chère Marie puisse compenser à la longue les désagréments auxquels on est exposé avec son père. M. Mirvan chanta triomphe à son retour. Il se divertit beaucoup de la sortie paisible de M. Lovel. « Je me flatte, s'écria-t-il dans son langage, de l'avoir assaisonné de la bonne façon. Nous verrons s'il restera encore demain une heure à délibérer sur sa toilette. Convenez-en, miss, son frac serait un pendant admirable du négligé de Madame Falbala. Parbleu! Il ne manque plus qu'elle pour achever la pièce. » On se mit ensuite à jouer aux cartes. Mylord Orville, Miss Mirvan et moi, nous ne jouâmes point. Nous trouvâmes de quoi nous amuser infiniment mieux. Pendant que nous étions engagés dans une conversation des plus agréables, un domestique vint me rendre une lettre qui, par je ne sais quel accident, avait été égarée. Je reconnus d'abord votre écriture et j'en eus bien de la joie, mon cher monsieur. Mylord Orville devina bientôt, par mon émotion, d'où venait cette lettre, et sachant que son contenu devait être essentiel pour notre bonheur, il me pria de rompre le cachet. Je pus le faire hardiment, et sans craindre d'être observé des joueurs, qui étaient beaucoup trop occupés de leur partie pour prendre garde à ce qui se passait autour d'eux. J'ouvris donc la lettre, mais je n'eus pas d'abord la force de la lire jusqu'au bout. Votre consentement accordé avec tant de bonté, et en même temps d'une manière aussi solennelle, la tendresse de vos expressions, la certitude de ne plus rencontrer d'obstacles dans mon heureuse union avec l'amant chéri de mon cœur. Toutes ces considérations se présentèrent vivement à mon esprit. Je sentis mon bonheur, mais ma joie était trop complète pour ne pas être agitée. Je versai des larmes de reconnaissance et de plaisir, et je remis ma lecture à un moment plus tranquille. En attendant, Mylord Orville était impatient d'apprendre ce que vous m'écriviez. Il m'eût été difficile de le satisfaire, et pour ne lui laisser rien à désirer, je lui remis votre lettre. Il a été touché comme moi de vos bontés. Il a baisé votre signature et en me serrant tendrement la main. « Oh, mon Evelina, » m'a-t-il dit, « il est donc vrai que vous m'appartenez pour la vie. Ah, si vous pouviez comprendre toute l'étendue de ma félicité. Je sais l'apprécier, mais je n'essaierai point de vous exprimer ce que je sens. J'aurais dû lui répondre, mais je ne le pus. Et même, je n'ai plus parlé de toute la soirée. La vraie joie n'est pas babillarde. Il me reste à vous témoigner, mon très cher monsieur, la gratitude dont mon cœur est rempli. Mais c'est un devoir que je me réserve pour notre première entrevue. C'est à vos pieds que je viendrai recevoir votre bénédiction, sans laquelle il manquerait à mon consentement un degré de perfection. Mylord Orville se fait une fête de vous présenter votre Evelina, comblée d'honneur et rendue heureuse par le don de sa main. Si le temps me le permet, je vous écrirai deux mots jeudi prochain, pour vous marquer l'heure précise de notre arrivée. Ma lettre vous sera rendue par un express. Je finis, monsieur, en faisant usage aujourd'hui pour la première, et peut-être aussi pour la dernière fois, du nom de votre très dévouée et très affectionnée Evelina Belmont. Lady Louise a demandé de son propre mouvement d'assister à notre mariage. Miss Mirvan et Madame Selwyn en seront aussi. Celui de Monsieur McCartney avec ma sœur Delay se fera le même jour. Mon père aura soin de la dot.